Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Baudenès, le directeur de l'image et le directeur artistique du Bon Marché et de la Grande Épicerie de Paris. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Alors, je suis donc Frédéric Baudenès, j'ai la chance de pouvoir être à la tête de l'image et la direction artistique de ces deux maisons que sont le Bon Marché et la Grande Épicerie de Paris, des belles maisons, des belles institutions. Voilà, donc je suis en poste depuis un petit moment, je suis un presque un monsieur Bon Marché, on va dire, un bébé Bon Marché en tout cas, je suis né là. Ouais. J'ai beaucoup appris dans cette maison qui m'a donné beaucoup et je suis toujours très fidèle à cette à ce groupe Bon Marché parce que c'est un groupe qui m'a donné tellement de choses, qui m'a fait rencontrer de belles personnes que j'ai rarement eu envie d'aller voir ailleurs. Ouais. J'ai 40 et quelques années et ça fait 23 ans que je suis dans cette maison, pas à ce poste-là. Je suis directeur artistique depuis 2001. Mais depuis 1996, je suis dans cette maison-là.
1996.
Ça fait rêver, hein. C'est rare.
On n'était pas encore champion du monde. Ouais. c'est exceptionnel, c'est hyper rare et ça paraît complètement fou pour les nouvelles générations. Tu nous disais tout à l'heure que tu venais du même coin que Loïc Prigent et que Gildas Loaec en Bretagne. T'es breton. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens exactement à part ce village? Comment a été ton enfance et comment tu es arrivé dans ces métiers artistiques? J'aime bien revenir assez loin en arrière pour comprendre le cheminement des gens.
Moi, je viens en effet du pays des dunes, du pays des rochers, des calvaires, des menhirs, donc de la pointe bretonne finistérienne nord. Ouais. Voilà, où j'y retourne régulièrement parce que j'aime ce climat, j'aime ces gens un peu taciturnes, j'aime un peu ce côté presque inhumain. Qui me fait du bien et en tout cas qui est vrai, parce que dès que l'humain se dévoile, il est vrai, il y a pas de superficialité là-bas. Et du coup, en effet, donc c'est un petit village où j'étais où je suis resté jusqu'à mes 18 ans, qui s'appelle Lesnevin. Voilà, et dans mon école, dans mon lycée assez dur, assez catho. Mais très bon lycée où j'ai appris certaines choses, la rigueur, le respect. Il y avait deux années en dessous de moi, une petite classe avec Loïc Prigent et Gilda Loaec. Ouais. Donc Gilda, hein, pas Gildas.
Ouais, pardon.
Et voilà, donc on s'est rencontrés, on se connaissait de vue, mais on s'est plutôt rencontrés plus tard sur Paris. Voilà, dans le métier. Et depuis, on a fait plein de choses avec Gilda, beaucoup de choses aussi avec Loïc. Et c'est génial parce que il y a une certaine fratrie, on va dire bretonne, de voilà, quand on s'appelle, on est là, on est breton, on supporte, on s'aide.
Ouais, on se serre les coudes. Ouais.
Exactement.
Très bien.
Et donc voilà, moi j'ai vécu là-bas, j'étais quelqu'un qui était passionné par la danse.
D'accord.
Alors que là-bas c'est hyper compliqué, j'ai adoré faire de la danse, monter des spectacles, je faisais partie de la compagnie de danse de ma ville, j'étais le seul garçon, je crois. Ouais. Et j'ai adoré ça, cette appréhension de l'espace. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose qui soit lié au spectacle. Donc j'ai passé mon baccalauréat vite fait là-bas, qui était le bac à l'époque BES aujourd'hui, pour vite rentrer à Paris dans des écoles d'art appliquées.
D'accord.
Parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des écoles privées. Dans les écoles d'art appliquées, c'était l'école Olivier de Serres pour moi,
oui.
Dans laquelle je suis rentré en mise à niveau après le bac, dans laquelle j'ai passé un BTS d'architecture intérieure, puis un DSA de mode et environnement. Voilà, donc 5 ans d'années d'études géniales où j'ai pu apprendre à dessiner, apprendre à construire, apprendre à faire des choses en volume.
T'avais une idée de ce que tu voulais faire déjà ou pas encore?
Je voulais être dans le théâtre. J'ai fait tous mes stages autour du théâtre, à la Comédie Française, à Custer, avec Louis Bercut, un de mes professeurs qui avait décorateur de théâtre et qui avait eu deux Molières. Donc vraiment, je voulais vraiment, vraiment être dans le domaine du spectacle. Mmh. Je savais pas trop si c'était le théâtre ou la danse. J'étais plus attiré par la danse, mais en tout cas, d'être dans ce domaine-là.
D'accord.
Et voilà. Et du coup, en tout cas, faire rêver les gens, mettre en scène les choses, raconter des histoires. Mmh. Voilà. Donc c'était mon rêve absolu.
D'accord. Et alors,
Après, comme tout bon petit gars de mon âge à l'époque, j'ai fait l'armée. Hein. Donc,
ouais,
j'ai fait l'armée. Donc, j'ai eu la chance.
T'es pas passé à travers, ouais, d'accord.
J'ai pas passé à travers. Donc, j'étais à l'école militaire.
Et alors, est-ce que t'en gardes des bons souvenirs ou c'était l'enfer?
C'était assez sympa parce que j'ai réussi à me démerder pour que ça soit sympa. Donc, je dessinais des salles de conférences pour les Invalides. J'ai dessiné une salle de cinéma pour Ballard. Donc, je jouais mon rôle d'architecte.
D'accord.
Mais c'était assez sympa. J'étais plutôt entouré de civils. Donc, ça se passait plutôt bien. Et pendant mes études et mon service militaire, pour pouvoir vivre à Paris, je gardais des gamins chez un monsieur qui est un cousin éloigné de Bretagne. Tu vois, la fratrie bretonne qui ressort tout le temps. Qui était médecin aux Galeries Lafayette.
D'accord.
Et c'est lui qui m'a dit que dans les grands magasins, il y avait des services d'architecture, des gens créatifs qui étaient là pour faire les vitrines, pour faire l'architecture intérieure des magasins, pour faire plein de choses. Et du coup, j'ai créé aux 4 grands magasins à l'époque, la Samaritaine y compris, aux 5 grands magasins, pardon. Voilà. Et le Bon Marché m'a proposer un entretien pour un remplacement de congé en maternité.
Très bien.
Et ça, c'était en février 96.
Ouais, d'accord. Et donc là, tu rentres, j'imagine, par la toute petite porte, par le 5 rue de Babylone, non? Et tu commences par quoi alors? C'est quoi le premier job que t'as, la première opportunité?
Alors à l'époque, ça s'appelait décorateur. Donc ça m'avait un peu énervé parce que j'aimais pas ce terme, étant donné que j'avais fait des études d'archi intérieur, je trouvais ça beaucoup plus chic que décorateur. Donc j'arrive dans une équipe de décorateurs où là il y avait, je me rappelle, Agnès Lédy, qui aujourd'hui est directrice de l'image de Chanel, qui était beaucoup plus grande que moi, même si à l'époque, même si elle avait que 3 ou 4 ans de plus que moi, mais en tout cas je la trouvais tellement belle, tellement géniale, et voilà, et elle faisait comme moi tous les projets événementiels, c'est-à-dire que c'était à l'époque des projets qui étaient vraiment liés aux activités commerciales du magasin. On n'avait pas encore le discours que le Bon Marché a aujourd'hui. C'était plus Noël, c'était plus Leblanc, les TBM qui existaient déjà à l'époque, les soldes, mettre en scène tout ça, les très bons marchés, en effet, les TBM. Et voilà, avec quelques expos quand même. Je me rappelle qu'il y avait toujours l'expo Grande-Bretagne en début septembre, qui était l'expo anglaise, qui était un de une de nos expositions les plus prometteuses, et celle qui engendrait le plus de chiffre d'affaires, on a le plus de budget. Et donc voilà, j'étais là pour mettre en scène tout ça, et un jour Agnès Lédy est partie chez Chanel.
Ouais.
Et du coup, on m'a proposé son poste en CDI et à m'occuper des vitrines et de Noël, et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, j'ai commencé à rentrer dans cet univers-là, et ce qui m'a plu en rentrant au Bon Marché, c'est que j'ai découvert l'univers d'un théâtre. C'est-à-dire que pour moi, le produit avait de l'importance, certes, mais pas tant que ça. Ce qui était hyper important, c'était de pouvoir utiliser ce bâtiment. Les clients devenaient des spectateurs, les vendeurs devenaient des acteurs. Mmh. Et du coup, on mettait tout ça en scène pour que ça devienne un moment inouï, une balade commerciale, qui était autre chose qu'un acte d'achat où on découvrait des choses, on rentrait dans des univers coloriels. Voilà, le produit était mis en scène, les expos étaient comme des petites pièces de théâtre.
Et ça a toujours fait partie de l'ADN du Bon Marché? Ou est-ce que depuis quand vous parlez comme ça, enfin vous le définissez comme ça?
Alors ça, c'était les prémices des expositions qu'on faisait à l'époque, mais ça a beaucoup beaucoup évolué et ça s'est beaucoup amplifié depuis quelques années. Mais en effet, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de Monsieur Boussicot dès son origine. Donner comme ça autre chose à voir, autre chose à entendre que le discours muet des produits, c'est-à-dire qu'il organisait des salons de peinture, il organisait des salons de musique, des salons de lecture pour ses clients. Mettait en scène les différents événements comme le blanc à l'époque qu'il a inventé. Voilà, c'était vraiment des actes qui allaient au-delà du produit. C'était quand même un génie, ce monsieur qui a inventé plein de choses, et nous on ne fait que suivre et essayer de faire au mieux ce qu'il a initié.
Ouais, c'est vraiment respecter l'ADN de l'origine, quoi. C'est assez impressionnant.
Qu'on amplifie de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on va sur des territoires qu'on n'allait pas forcément au début, en tout cas quand je suis arrivé. Et c'est génial, parce que c'est un terrain de jeu qui, du coup, devient top, quoi.
Ouais. On va rentrer dans le détail de tout ça. Raconte-nous quand même, reviens sur ton parcours, sur les différents milestones de ton épopée au sein du Bon Marché. Parce qu'en 23 ans, j'imagine que tu as monté les échelons un à un, que voilà, tu as vu plein de choses très différentes. Explique-nous tout ça.
Alors, bon, comme je le disais, j'ai commencé comme décorateur. Après, je suis passé un an et demi, je crois, chef, à l'époque c'était ça, chef de service des décorateurs. Donc j'étais le chef des autres décorateurs.
Et puis vous après. Combien? C'est des grosses équipes,
quatre,
je m'en raconte.
Non, quatre architectes. Et voilà, mais c'était génial, c'était super. Et puis voilà. Et après, je trouvais qu'il y avait deux équipes qui communiquaient pas. C'était l'équipe intérieure, l'équipe vitrine. Et je trouvais ça dommage. Donc à l'époque, j'avais demandé à mon boss si je pouvais aussi avoir un regard sur les vitrines.
Okay.
Pour qu'il y ait une cohésion entre le message donné sur l'extérieur et le message intérieur. Donc il m'a nommé à l'époque conseiller artistique, où j'avais en charge donc les vitrines et l'intérieur du magasin. Alors ça, je sais plus en quelle année c'était. Et puis voilà, et le hasard des choses a fait que le groupe LVMH a racheté la Samaritaine.
Ouais.
Et que la Samaritaine a été confiée à l'époque aux équipes du Bon Marché.
D'accord.
Entre autres, parce que c'était des experts des grands magasins. Donc mon boss de l'époque a été amené à travailler beaucoup sur la Samaritaine et n'a pas pu suivre tout l'événementiel Bon Marché. Et du coup, j'ai pris la direction de l'identité visuelle à l'époque en tant que directeur artistique pour le Bon Marché, donc c'est-à-dire tous les événements et leur mise en scène dans le magasin. C'est une époque où j'ai beaucoup appris, parce que j'ai eu la chance de travailler auprès de Séverine Merle, qui
ouais,
était directrice de l'image
et qui
aujourd'hui est présidente de Céline.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et donc Séverine m'a apporté énormément. On a grandi ensemble ici. Hein, et m'a appris à prendre du recul sur les choses, à voir les choses sous un autre angle, à relativiser. C'était un grand moment d'apprentissage pour moi, et nous sommes toujours d'ailleurs en relation. Et c'était une superbe époque, ces 6 ans passés auprès de Séverine, où main dans la main, on a raconté des histoires au Bon Marché, on a fait vivre le magasin différemment. Voilà, et puis... Et puis en 2001, direction artistique, voilà, où là je m'occupais de l'ensemble de l'image du magasin.
Ah, donc ça fait hyper longtemps en fait.
Ben ouais, mais ça fait 23 ans quoi. C'est...
Non mais 2001, tu prends, t'étais tout jeune en plus. Non mais en 2001, t'étais, je sais pas quel âge t'avais, mais t'avais une trentaine d'années quoi, même pas. Et faire confiance à quelqu'un d'aussi jeune, c'est cool.
Ouais, c'était
une grosse responsabilité, quoi.
Ouais, alors je sais pas si j'avais les épaules, mais en tout cas on a cru en moi, et moi j'ai donné beaucoup aussi pour que qu'on soit fiers de ce que je fais. Enfin, c'est-à-dire que peut-être que l'univers du grand magasin à mon époque était un univers plus facile pour les garçons.
D'accord.
C'était un univers très féminin, et du coup quand t'étais un garçon, tu sortais un peu du lot.
Ok.
Il y avait très très peu de garçons à l'époque. Il y en a plus aujourd'hui. Puis j'ai fait beaucoup de choses pour ça aussi, mais ouais. C'est peut-être ça là. T'étais plus visible. Alors, je n'étais pas plus doué ou tout ça, pas du tout. C'est que j'étais peut-être plus visible, et puis peut-être que moi je m'éclatais quoi. M'éclatais à raconter des histoires, à mettre en scène. Donc du coup j'avais la banane tout le temps, les yeux qui pétillaient quand je présentais mes projets. Donc j'imagine que ça a dû jouer en ma faveur,
ouais.
Et je m'éclate toujours. C'est ça qui est génial. Ouais. Même après 23 ans,
ouais.
J'arrive toujours à avoir la banane en venant ici et à m'exciter sur des projets que je propose en les extrapolant, en les présentant, en essayant de faire rêver les gens,
ouais.
Avant que le projet soit réalisé, juste sur l'idée de. Et ouais, ça, c'est génial, cool. Quoi. Il y a peu de boulot où on
peut faire ça, ouais.
Enfin, il y en a sûrement, mais en tout cas, moi, je trouve que avoir cette motivation depuis si longtemps qui reste presque identique qu'au départ, c'est assez génial.
Comment tu l'expliques ça d'ailleurs?
Je crois que j'ai la chance d'avoir de créer mon travail. C'est-à-dire que j'ai la chance de proposer, alors pas tout le temps, mais souvent quand même, de proposer des idées, des rencontres, de travailler avec des gens, et après d'aller jusqu'au bout, de les mettre en scène dans le magasin, en communication, en publicité, dans les vitrines, jusqu'à la soirée d'inauguration. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir tout d'un coup, pouvoir quelque part réaliser des rêves. Parce que quand je propose des idées, ou quand on travaille sur des idées, au début, c'est un rêve. Là, je vois Ai Weiwei, par exemple, se dire de faire venir Ai Weiwei chez nous. Voilà, au début, moi, c'était juste une admiration que j'avais pour son travail, que j'avais découvert.
Ouais.
Et tout d'un coup, se dire que j'ai la chance d'avoir mon président, Patrice Wagner, qui en plus nous pousse à aller plus loin, qui nous dit « Ah, c'est top, faut y aller, allons-y. Voilà, il n'y a pas de réticence quand on propose quelque chose. C'est quand même quelque chose qui est hors du commerce. Ai Weiwei, on n'a rien vendu. C'était juste une opération image. Très belle, certes, mais il n'y avait pas de business derrière. C'était juste un investissement image. Et tout le monde n'a pas la chance d'être suivi comme ça par son président pour dire « Ouais, on y va, quoi. »
Ouais, en fait, tout est possible, j'ai l'impression. Ouais. Quand tu peux ramener Ai Weiwei, tout est possible.
Exactement.
Quoi.
Et tout est possible. Et le fait que enfin, pas tout est possible, ce serait trop bien, mais en tout cas, c'est possible. Il y a des choses qui sont possibles, ouais. qui sont pas du tout dans notre domaine. Mm. Voilà, quand ton président, tu lui dis oui, Ai Weiwei, et serait ok de nous rencontrer, et qu'il te dit, ouais, viens, on part en Chine la semaine prochaine, on va le voir. C'est génial, quoi. Voilà. Parce qu'en plus, il rentre dedans. Et après, ce qui est génial dans cette motivation, c'est que cette histoire proposée, ben, du coup, elle est suivie jusqu'au bout, jusqu'à construire le projet avec lui, jusqu'à le faire passer aux équipes après. Parce qu'il y a, je fais rien tout seul, hein. J'ai quand même beaucoup d'équipes.
Raconte-nous un petit peu, c'est quoi ton métier aujourd'hui? Parce que c'est pas que avoir des idées, c'est aussi, gérer tout un petit monde.
Ouais, alors, dans la construction de mon équipe aujourd'hui, c'est deux entités. Il y a une équipe, on va dire, de storytellers, avec des gens avec qui on écrit des histoires, ouais. Qu'elles soient artistiques, des histoires d'invités, que voilà.
Mais concrètement, comment ça se passe?
C'est-à-dire qu'on brainstorm. Ouais. On brainstorm, mais là où je mélange tout le monde, je prends plusieurs personnes de mon équipe, on brainstorm, on dit, voilà, les prochaines, à qui on a envie de donner la parole, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment le bon marché pourrait prendre la parole différemment? Donc, on réfléchit, on sort plein d'idées. Ça peut être des gens, ça peut être des tendances, ça peut être des endroits. Voilà, une fois que tout ça est positionné en post-it sur un mur, bon, on trie un peu, parce qu'on a des grands moments de prise de parole. En janvier, c'est plutôt l'artistique, après on est sur la mode, après on est plus sur un invité, après on est plus sur de l'évasion, un pays en septembre, puis Noël, parce que Noël reste incontournable. Et à partir de là, je propose à mon président donc nos différents thèmes. On choisit ensemble, on se dit ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Et une fois que c'est validé, c'est-à-dire que l'idée est retenue, ben on y va. Et on y va comme on peut, par Facebook, par Instagram, pour choper les gens, pour essayer de les interpeller, leur demander ce qui serait intéressé de collaborer. On n'a pas forcément les adresses, on n'a pas forcément le réseau, mais on se le crée.
Ouais.
Un peu comme ça, ouais. Voilà, et après, ben voilà, et puis on va... Voilà, on essaye de, déjà de les voir, leur donner envie de venir chez nous, et après on écrit une histoire avec eux.
Mmh. Et après, la collaboration, elle est vraiment, c'est une vraie collaboration.
C'est main dans la main. Ouais. Tout ce qu'on fait, c'est main dans la main.
Vous poussez pas les idées, quoi. Il faut les écrire ensemble.
On les écrit ensemble, on voit ce qu'ils veulent faire, et puis après, moi, j'ai une autre équipe qui est plus une équipe créative, donc c'est-à-dire des architectes, des graphistes, des gens qui ont fait du Perret, des gens qui ont fait des écoles d'art appliqué, Camando, des écoles d'archi. Et qui, eux, vont avoir pour mission de mettre en scène tout ça, de créer un élément graphique qui va supporter tout ça, et qui vont aussi rendre cohérent ce message-là pour que, si on parle Stromae dans le magasin au bon marché, Mozart Stromae, ça sera une écriture qui sera identique sur tous les supports de communication, y compris la publicité. On travaille avec l'agence BETC Luxe, qui bosse avec nous main dans la main aussi, et qui décline en communication l'événement. Le bon marché communique essentiellement sur les événements, donc la communication est vraiment liée à l'événement du moment de l'année sur lequel on est. Et c'est hyper important que quand on se balade dans Paris en bus ou en métro, qu'on voit une image ou quelque chose qui nous donne envie, on retrouve cet univers à l'intérieur du magasin.
Très bien. J'ai plein de questions qui s'entrechoquent dans ma tête.
Excuse-moi, je parle vite.
Non, ça va, c'est très simple. Comment tu fais comment vous faites pour ne pas être à côté de vos pompes? Enfin, tu vois, quand tu choisis Ai Weiwei, c'est hyper surprenant, mais c'est juste en même temps. Quand tu choisis Luc Prigent Et de neuf, c'est juste comment vous êtes sûr que vous êtes pas à côté de vos pompes et comment tu fais pour te nourrir?
Ça, j'en sais rien.
Ouais.
Oh, Adrien, je pourrais être honnête, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Il y a des, voilà, je pense qu'au bon marché ne sont pas sollicités des gens qu'on n'aime pas. Parce que avant tout, c'est des gens qui nous touchent, nous. Mm. On ment pas. Je vais pas prendre, j'arriverai pas à travailler avec quelqu'un que j'admire pas ou qui m'épate pas. Et après, je sais pas, c'est une façon, c'est un peu comme un, c'est comme un, orchestrer un théâtre parisien où on fait une programmation. Et qu'est-ce que ça veut dire être dans la tendance? Je sais pas, la tendance de qui? La tendance de Paris, la tendance de rive gauche, la tendance française, je sais pas. Est-ce qu'on n'est pas faiseur de tendance aussi? Sans prétention, parce que j'y crois pas du tout, mais est-ce qu'on n'écrit pas un petit monde qui est le nôtre, qui est le bon marché aujourd'hui, la grande épicerie de Paris? Et que certes, on est complètement sous influence de toutes les tendances, mais peut-être qu'on en traduit ou qu'on en filtre une certaine chose qui fait que, parce qu'à chaque fois qu'on a pris des gens, Mademoiselle Deneuve n'est pas dans la tendance, hein, c'est juste que voilà, mais
ça fait partie
Deneuve vu par Loïc, oui, c'est tendance.
Oui, ouais.
Ou vu par Marjane Satrapi, oui, c'est tendance. Après, moi, je suis fan de Catherine Deneuve, mais c'était pas une volonté, si on avait voulu une actrice... dans l'air du temps, c'était pas Catherine Deneuve.
Non.
Peut-être qu'on aurait pris, quoi.
Non.
Mais twister, voilà. Moi, j'essaie toujours de twister les choses aussi. Même avoir un discours artistique avec Highway, c'est aussi twister le langage d'un grand magasin. Tout d'un coup, parler de mode avec Iris Apfel, une grande dame de 94 ans, c'est aussi twister le discours mode. On peut être mode aussi à cet âge-là. On peut aussi avoir un monde à cet âge-là. On n'est pas forcément juste une blogueuse, une influenceuse hyper en vue, ben, même si elle l'est différemment. Mais c'est ça que j'aime bien, moi, de twister les choses et pas forcément être là où on nous attend, et justement amener des gens qui portent un autre regard sur la mode, sur l'art, sur, voilà, sur plein de choses dont on a envie de parler.
Il y a une question qui me vient, j'écoutais un autre podcast hier sur Vlan, que j'adore, et il parlait justement du petit monde parisien. Et c'est vrai que quand on est dans le 6e, 7e, dans ce coin-là, on a toujours peur d'être... alors j'imagine que c'est une peur pour vous, d'être dans l'entre-soi. Et il faut rester ouvert quand même sur le monde, parce que voilà, quand t'es le bon marché, il y a le monde entier qui vient ici. Et justement, pour être juste, il faut pas faire de l'entre-soi uniquement. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention, ça?
Ouais, complètement. Complètement, c'est qu'on a eu cette image quelques années un petit peu repoussant, un petit peu de, je me rappelle, on me disait oui, vos publicités sont repoussantes, vous avez un air un peu hautain. On n'est pas du tout comme ça, nous. Alors si on a été comme ça, je m'en excuse, c'était pas du tout cette volonté, c'était peut-être de montrer une image parisienne, très très parisienne, avec un côté audacieux, raffiné, un peu ouais, parisien. Et le parisien, des fois, il est un peu boring, il est un peu hautain, quoi. Et du coup, moi, je sais que en tant que breton, les parisiens sur les plages chez nous, ils ont pas
bonne côte.
Moi, je suis matriculé 29, hein, je suis pas 75, hein. Et on n'a pas la bonne côte. Et peut-être que ce côté-là aussi, c'est des choses qu'on a envie de cultiver, nous, en tant que bon marché, en tant que grand magasin parisien. On a envie d'être le lieu où se vit Paris. Et du coup, on a envie, en tout cas, que les gens qui viennent chez nous trouvent du Paris, du vrai Paris. Et on n'a pas du tout envie d'être une enseigne internationale. On a envie qu'il y ait un esprit parisien. Alors, pas seulement rive gauche, hein, c'est pas de rive gauche, rive droite. C'est vrai qu'on est positionné sur la rive gauche, on l'a beaucoup clamé, mais vraiment cet esprit parisien. Alors, est-ce que ça, c'est excluant? Est-ce que ça veut dire qu'on se regarde dans son petit monde? On essaye, en tout cas, d'avoir une écriture parisienne qui nous est propre et écrire avec ça, construire avec ça ce côté parisien dont on est fier. On a envie d'être parisien et on a envie de faire venir chez nous des gens qui veulent du Paris. Et pas du Paris touristique, forcément.
Ouais.
Mais du vrai Paris.
Ce que vivent les Parisiens.
C'est dur à définir, ce que vivent les Parisiens. Moi, j'ai du mal à définir. C'est hyper dur. Ce Paris, c'est dur à expliquer ce que.
Mais alors, comment vous définissez l'ADN du bon marché? Qu'est-ce qu'on défend quand on est le bon marché?
Bah, je pense qu'on défend Paris.
Ouais.
On défend une certaine audace, on défend un certain raffinement quand même, hein, aussi, une certaine élégance, un chic parisien, mais qui n'est pas forcément ce qu'on peut imaginer. Ça peut être aussi des choses décalées, des choses... Il y a aussi ce côté un peu quand même, même si on le revendique pas trop, mais rive gauche, ce côté un peu manifestation, on a envie d'être différent, on fait des choses... Oser, mais toujours jamais trash. Ouais. On reste quand même le
avec
bon marché.
Beaucoup d'élégance, ouais.
Avec beaucoup d'élégance. Mais alors, l'ADN pourrait être, oui, c'est ça, c'est une certaine légèreté, un certain raffinement, une certaine audace et un côté très parisien.
Très bien. Comment t'expliques que tu dures aussi longtemps? Parce que ça fait depuis 2001 que tu es encore là. En général, les directeurs artistiques, ils ne restent pas très longtemps en poste. Moi, ce que j'ai en tête, c'est les grandes maisons de luxe. En général, quand ils ont fait 3 ans 4, ou 6 ans, c'est le bout du monde, quoi.
Moi, je suis un directeur artistique atypique. C'est-à-dire que je ne suis pas un directeur artistique comme peut l'être Edith Slimane ou notre regretté Karl Lagerfeld. C'est pas du tout la même chose, c'est le même titre, mais c'est pas trop la même mission. Ici, il n'y a pas de directeur artistique comme il peut l'avoir dans une maison de couture. Moi, je trouvais important, et je pense que je suis sûr, j'étais le premier directeur artistique des grands magasins. Il n'y en avait pas avant, depuis il y en a d'autres, parce que je trouvais important qu'à l'époque, l'art est une place méga top chez nous. Je trouvais ça génial de se différencier par le côté artistique qu'on a pu amener dans ce magasin.
Ça n'existait pas avant ça.
Alors ça existait, mais de façon plus légère. Mais de plus en plus, ça croît et c'est devenu aujourd'hui une raison d'être. Hein. Notre discours artistique est attendu, enfin j'espère. Et on a donné et appris, j'espère, à beaucoup de gens qui sont venus par hasard chez nous à découvrir des artistes de talent comme Chéru Chiota, Leandro Erlich, Joana Vasconcelos cette année. Voilà, on paye pas, c'est gratuit, on vous l'offre, c'est un cadeau, on essaie de vous donner du beau, du bon. Et voilà, donc est-ce que parce que je n'ai pas créé une mode comme d'autres directeurs artistiques, est-ce que je suis plus un suiveur de mode ou quelqu'un qui filtre des choses et qui les retranscrit différemment? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que mes sujets changent? Je sais pas du tout. Je sais pas. Pour l'instant, ça marche. J'ai un très bon fit avec mon boss, Patrice Wagner. Du coup, voilà, on construit. Puis je fais rien tout seul. Hein. Je veux dire... Je me nourris des autres, je me nourris de lui, de mes équipes. Enfin, on se construit, voilà. Après, moi, je suis juste là, un peu en tant que chef d'orchestre. Et puis, pour savoir si c'est bon marché, pas bon marché, est-ce que je le sens bon marché ou pas bon marché. Il y a des choses qu'on me présente où je peux dire tout de suite, non, c'est pas nous. Ou d'autres choses, je me dis, tiens, il pourrait y avoir...
Qu'est-ce qui n'est pas vous ?
Alors, je sais pas, mais c'est tout ce qui est évident, peut-être. Tout ce qui est...
Trop direct, ouais.
Trop direct ou ce qui est trop... ce qui est pas assez... qu'il n'y a pas de sens, les choses qui n'ont pas de sens, c'est pas nous, par exemple.
Faut que ça soit
que tout ce qu'on...
Qu'est-ce que ça veut dire avoir du sens?
Avoir du sens, je pense, c'est pour expliquer les choses. Moi, je suis pas un bon orateur, mais parler d'un sujet, si j'ai pas l'explication et si derrière je donne pas de sens au fait qu'on l'ait fait et pourquoi, et ça peut pas avoir lieu aujourd'hui au bon marché. Il y a la grande épicerie. C'est quelque chose qu'on a fait parce qu'on avait envie de dire ça, parce que ça apporte ça, parce que on y croit, parce que, enfin voilà, il y a tout un discours derrière et le non-sens pour moi n'a pas lieu d'être chez nous.
Au début de chaque nouvelle histoire, au début de chaque nouveau projet, ça ressemble à quoi le brief? C'est juste une phrase, 5 lignes, quelque chose de très catchy pour le vendre à ton boss. Ça ressemble à quoi? Ou est-ce que c'est déjà très poussé avec des maquettes, etc.?
Non, ça peut être juste à l'oral même. Ouais. Ça peut être juste un nom. Mais tout de suite, ça peut engendrer des étoiles dans les yeux. Non, il n'y a pas de formule magique de... Non, ça se fait de façon très simple. Vous savez, nous, on est une petite maison, on n'est pas hyper nombreux, on est moins grand, je pense, que nos concurrents de la rive droite. Donc, tout est beaucoup plus simple. Ouais. Le bureau de président, c'est la porte à côté, on se voit... Enfin...
Vous voyez tous les jours.
Voilà, on se voit tous les jours, on échange beaucoup avec la directrice commerciale, Catherine Newey.
Entre deux portes, ça marche très bien, quoi.
Plein de choses, on est 8, à se voir souvent, on déjeune ensemble, on voyage ensemble aussi pour savoir si, quand on a une idée, par exemple, d'un pays, ben on y va tous ensemble, on va voir si, si on pense tous dans nos secteurs d'activité que ce pays a une raison d'être chez nous ou pas. Donc oui, voilà, c'est hyper facile de faire passer les choses. Donc il n'y a pas de grande messe de présentation. Ça peut se faire dans un taxi, ça peut se faire, ouais, c'est assez après, une mm-hmm. fois que l'idée est validée, il faut qu'on la fasse illustrer ou qu'on commence à la mettre en scène pour la vendre, enfin pas pour la vendre, mais en tout cas pour la faire pour donner le bébé aux équipes, ouais, ouais. pour que les équipes la prennent en main, se l'approprient et la portent et qu'ils y croient aussi. Mais en général, il y a un esprit comme ça après autant d'années dans cette maison. Il y a un truc qui fait que quand une idée vient, c'est pas par hasard et que elle est facilement appropriée.
Comment tu arrives à porter tes équipes, justement, à les motiver, à les emmener avec toi?
J'ai déjà des équipes assez fidèles. Ouais. Ouais, on dit que moi je suis plus longtemps là, mais j'ai des équipes qui me suivent depuis bien longtemps aussi. Et je pense que c'est des gens qui sont fiers de travailler pour une maison comme le marché, qui sont fiers de faire un projet Stromae, qui sont fiers de travailler avec tous les gens avec qui on travaille. Et y a une fierté d'appartenance qui est assez géniale hein, dans nos équipes. Et du coup, ils comprennent assez vite...
ce que tu veux, ce que vous voulez.
Ouais, et puis comme on n'est pas nombreux, je veux dire, c'est aussi des rapports de travail qui sont géniaux parce que quand tu bosses avec Stromae, tu bosses avec Stromae.
Ouais, il vient
il
ici
est là, et... Paul est là, enfin... Il est Coralie, sa femme est à côté, ouais. son frère également. Enfin, c'est ça aussi, c'est simple, c'est on bosse ensemble, c'est-à-dire qu'on va les voir à Bruxelles. Voilà, il y a ça aussi, et du coup, pour les équipes, pouvoir accéder comme ça aux gens et travailler main dans la main avec les gens qu'on invite, hein, c'est assez génial et c'est, je pense, un facteur de motivation dingue.
Ah bah oui, j'imagine. Ouais.
Voilà, il y a pas, on n'est pas hyper nombreux, on est voilà.
C'est quoi, donc la culture entreprise, c'est très familial, quoi.
C'est... Très familial, en tout cas très proche et très très on remonte les manches et on y va tous. Il y a un moment, il faut poser des choses la nuit sur un. Moi, je me rappelle une grève de ménage où on passait tous le balai dans le magasin et l'aspirateur, moi le premier. Voilà, et ouais, jusqu'au c'est président, très, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraide. Ouais.
Voilà, on a l'impression que c'est une grosse machine, mais derrière, ça reste une structure humaine, quoi.
Complètement, ouais. Et puis on est tous là. Il faut être très démerde, entre guillemets, dans ces métiers-là pour trouver des astuces, pour rentrer dans les budgets, pour être prêt à temps. Voilà, c'est. Voilà. Le défi de Stromae, par exemple, on l'a géré nous-mêmes avec l'équipe et avec, bien sûr, Stromae. Ouais. Et puis Marion Motin, la chorégraphe. Mais l'habillage, le lancement, les top départs des mannequins. On l'a fait nous-mêmes, donc c'est des architectes, des graphistes qui ont fait tout ça. On n'a pas pris une agence
Qui
a géré un défilé, voilà.
Ou d'autres, pardon.
Et c'était génial. Et du coup, ça aussi, ça cultive la fierté de l'appartenance et de faire un projet de A à Z, quoi, jusqu'à faire le défilé.
Si tu faisais pas ça, tu ferais quoi, tu penses?
Je sais pas. Je me pose souvent la question.
Ouais.
Je sais pas ce que c'est. C'est aussi, en effet, comme ça, j'en parle avec légèreté, mais c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de nuits sans dormir, c'est beaucoup d'interrogations sur plein de choses, genre après, oui, c'est waouh, qu'est-ce que je vais faire après? Ouais, je vais réussir à choper. Enfin, ouais. C'est beaucoup de stress, hein, beaucoup de cheveux blancs, de mal de bide, même si ça paraît bien comme ça, là, sur, mais c'est quand même, c'est génial, mais il y a des moments aussi qui sont peur. Il y a des moments qui font peur. Moi en plus je suis hyper angoissé, j'ai toujours peur de pas être à la hauteur, de pas faire les choses bien, voilà. Donc du coup c'est c'est beaucoup, mais en même temps c'est ça aussi peut-être qui me motive, c'est peut-être ça qui me fait durer aussi, le fait de me remettre en question tout le temps, de douter tout le temps, d'être jamais sûr de ce que je vends, de ce que je propose, enfin, donc c'est peut-être ça aussi qui fait le...
Ouais, c'est un côté un peu bon élève qui va faire l'extra mile tout le temps.
Éducation
pour...
Éducation bretonne.
Ouais, c'est ça. Il faut en faire toujours plus pour prouver.
Être, voilà. Ouais. Et je sais pas, peut-être que je serai, ou peut-être que je le serai un jour, peintre. J'aimerais bien revenir à la peinture. J'ai un peu peint par le passé, comme ça, mais peut-être que, voilà, retourner en Bretagne et...
À Port-Aven, non, c'est ça.
Non, moi je suis du Nord, je suis pas du Sud.
Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu peut-être les collaborations les plus marquantes que tu as vécues ces 20 dernières années? Il y a eu Huawei, j'imagine. Tu avais fait quelque chose avec Karl Lagerfeld et Assayer. Enfin, je sais pas comment il s'appelle son
nom. Olivier Assayer. J'ai fait plein de choses avec Olivier.
Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu.
Ouais, alors des choses marquantes, moi, si je devais. Alors, certes, il y a eu Huawei, mais ça, vous l'avez vu, on en a parlé déjà. Moi, quelque chose qui m'a aussi beaucoup touché, c'est Guy Bourdin, ses films.
Ah oui, je me rappelle.
Oui. Voilà. J'avais l'ami d'un ami qui venait manger chez moi. Samedi midi, des fois le dimanche midi, des pâtes, cela. Jusqu'au jour Samuel, très sympa, jusqu'au jour qui, je me suis rendu compte qu'il s'appelait Samuel Bourdin et que c'était le fils de Guy Bourdin, j'avais pas dû calculer. Comme quoi, hein, on n'est pas toujours intéressé dans nos relations amicales et je lui dis, ah, ça serait Samuel, j'adorais le travail de son papa et je lui dis, ce serait super qu'on fasse un truc. Et puis il me dit oui. Et puis moi, là, ce temps-ci, on a plein de films à montrer qu'on a retrouvés en Super 8. Et donc, on a fait une expo avec lui et Shelley Wertheim. Ouais. Shelley, qui est une femme fabuleuse, qui était la muse d'Albert, qui est la muse d'Albert Elbaz, pardon, et qui s'occupe de la collection comme ça de Guy Bourdin auprès de Samuel. On a fait une exposition Bourdin et ses films, Guy Bourdin et ses films. Et ça, c'est la première fois, je pense, dans ce que j'ai proposé au Bon Marché. Donc c'est une exposition qu'on a fait pendant la Fashion Week avec un cocktail et tout. La musique était faite par Ariel Wiesman, où on a réussi à faire un vrai spectacle, ce que je rêvais de faire, un vrai vrai spectacle. C'est-à-dire que t'étais dans une immersion complète d'images de Guy Bourdin avec la musique, tout. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait qui était proche d'une grande émotion d'un concert. Et voilà, ça c'est un moment où nos expositions ont eu notre écriture qui se sont plus approchées de vers là où je voulais tendre, c'est-à-dire les cinq sens, et pas simplement regarder, et voilà. Et là, on était plus dans quelque chose qui nous touchait. Qu'est-ce qu'il y a eu de très beau? J'aime beaucoup aussi, alors c'est sur une autre écriture, mais monter tous les spectacles qu'on fait à Noël. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais au Bon Marché, on vous offre des spectacles tous les samedis, tous les dimanches, de 15h à 19h. Il y en a un tous les 20 minutes, et ça, c'est un marathon de trouver ces spectacles. Donc c'est pendant toute l'année dans les théâtres parisiens, essayer de voir la pièce qui pourrait être adaptée au Bon Marché pour en tenir que 5 minutes et qui en plus rentre dans le thème de Noël. Donc voilà, donc on monte une scène au centre du magasin et c'est devenu aussi un rendez-vous pour nos clients, c'est-à-dire que ces spectacles-là sont attendus. Les gens reviennent avec leurs enfants voir les spectacles de Noël qui ont lieu au magasin et monter ça. Alors c'est peut-être parce que c'est très proche de l'univers du théâtre et donc du coup je me sens beaucoup plus à l'aise, ou c'est quelque chose qui me passionne, donc voilà pourquoi je donne cet exemple. Mais bel événement aussi, ces spectacles de Noël. Et puis après, dans ce qu'on a pu faire comme exposition, il y avait un lieu qu'on a mis en scène qui s'appelle Naoshima pour une expo Japon. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir cette exposition.
Non, moi je me rappelle pas. Je me rappelle de Guy Bourdin, je me rappelle de Iris Van Herpen.
Iris Apfel.
Pardon. pardon. Mais je me rappelle de plein, mais ouais.
Bah, Naoshima, c'était une expo Japon et Naoshima, c'est une île dans la mer intérieure du Japon qui est dédiée à l'art contemporain.
Oui, mais bien sûr.
Et où il y a
des trucs
de fou. Enfin, c'est un truc de fou. Et j'avais la première fois que j'y suis allé, c'était avec Séverine Merle d'ailleurs, il y a très longtemps, sur une recommandation d'Olivier Saillard, le monde des petits. Et je me suis dit, si on fait le Japon, on doit parler de Naoshima. C'est donc, j'ai amené mon président là-bas. Il a aussi beaucoup aimé ce lieu. On a donc, tous les bâtiments sont dessinés par Tadao Ando, l'architecte japonais. Donc on a réussi avec Patrice à convaincre Monsieur Benesse, propriétaire de Naoshima. Donc c'est des bâtiments béton brut avec juste une œuvre à l'intérieur. Il y a la Pumpkin de Yayoi Fusama. Il y a les nénuphars. C'est un lieu magique et on a réussi à les convaincre à venir chez nous, parce qu'au début, quand t'arrives avec l'étiquette grand magasin, c'est pas forcément bien vu. T'es pas un musée, t'es pas voilà, t'es un grand magasin. Après, il faut juste qu'ils comprennent notre philosophie, notre démarche, pour que ils adhèrent au fait de venir chez nous. Et on a réussi à reconstruire l'île avec des maquettes des bâtiments de Tadao Ando et en faire un film aussi où là, il y a eu vraiment quelque chose de très immersif, où on a réussi à, je pense, à emmener nos clients dans cette île merveilleuse qui est Naoshima. Et voilà, c'est un autre événement dont je suis assez fier, parce qu'au début, c'était pas gagné.
Justement, là, tes fleurs, un sujet qui est pas simple, trouver l'équilibre entre l'art et le commerce. Ça, c'est quelque chose qui fait de la partie de l'ADN du bon marché. Mais tu me diras, c'est un peu la mode. La mode, c'est un équilibre entre l'art et le commerce à un moment donné. Comment vous faites, vous, pour pas être d'un côté, dans l'extrême, quoi, être un marchand du temple quand on est trop du côté commerce et un quelqu'un qui est un peu au-dessus de tout quand il est trop dans l'art, quoi.
T'as raison, la limite et la frontière n'est pas évidente. Moi, je dirais simplement qu'on est des commerçants. Ça, on le sait, tout le monde le sait.
Et vous l'assumez.
On l'assume et on a besoin de ce commerce pour faire autre chose. Après, aujourd'hui, être commerçant et se différencier par le produit, c'est pas évident. Parce que aujourd'hui, la plupart des enseignes vendent la même chose, les mêmes marques. Alors, ok, il y a quelques exclus de temps en temps, mais c'est hyper difficile de se différencier par le produit. Donc, je pense que l'élément de différenciation aujourd'hui le plus fort, c'est ce qu'on raconte en dehors de produits, cette valeur immatérielle. C'est la façon dont les produits sont mis en scène, le merchandising, qui est le langage muet des produits, les vitrines. La campagne de publicité qu'on peut voir avant d'aborder le magasin, un peu comme une couverture de catalogue. Et tout l'événementiel qu'on peut mettre dans le magasin, c'est tout l'événement, tout ce qu'on fait, hein, l'art, les expos pays qui sont aussi commerciales, mais tout ce qu'on fait en dehors, qui fait que, pour acheter un cirque Playmobil, j'ai n'importe quoi, mais je trouve ça plus rigolo de, en même temps, découvrir une exposition de Chiharu Shota. Parce que j'ai vu cette affiche et que je ne sais pas qui est cet artiste, ou je sais qui c'est, je me dis waouh, Chiharu Shota au marché, c'est top. Et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui la différence. C'est cette valeur immatérielle, c'est ce qu'on met qui n'est pas forcément du produit, même si on sait qu'on est des commerçants derrière et qu'on a besoin de vendre pour faire tout ça. Et après, je pense qu'on crée au niveau de nos clients une fierté d'appartenance. C'est-à-dire que tout d'un coup, le cirque Playmobil dont je parlais tout à l'heure, si il a été amené ou offert dans ce papier orange avec ce logo Le Bon Marché Rive Gauche ou la Grande Épicerie de Paris, si c'est quelque chose de proche de la nourriture, eh ben il n'a pas la même valeur. Parce que ce papier orange, quelque part, si on a réussi notre mission, si on a réussi à voir ce qu'on fait, c'est qu'on a mis plein de choses dedans. Dans ce papier orange, il y a tout ce que représente le bon marché, la rive gauche, les expos qu'on fait, tout ce qu'on représente mais qui n'est pas dit et qui est difficile à dire, mais tout ce qu'il y a en plus. Donc il y a cette fierté d'appartenance qui fait que ça nous différencie des autres. Et quelque part, on est fiers d'offrir ce cirque Playmobil dans ce papier orange. Ouais. Excusez-moi, j'étais un fan du cirque Playmobil quand j'étais petit. Donc...
On l'a tous été.
Mais le cirque Playmobil qui est le même qu'ailleurs, quoi, pourtant.
Ouais.
Je pense que c'est ça, cette limite. C'est, voilà,
Je vois. Comment tu t'imagines évoluer le commerce, justement, à l'ère de Amazon, à l'ère d'Internet, avec 24/7, etc. J'imagine que ça marche bien. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs. Comment on continue à amener les gens chez soi? Alors, je pense que vous le faites très très bien et qu'avec vos expositions et l'événementiel que vous faites. J'imagine que c'est la voie qu'il faut prendre, qu'il faut suivre. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça suffira dans le futur? Ou est-ce que l'efficacité d'Internet prendra le dessus? C'est quoi ton ressenti par rapport à ça?
Moi, je pense que... Donc, on a commencé, en effet, à avoir un langage d'événementiel qui fait qu'on fait venir les gens pour autre chose que le produit chez nous. Parce qu'on les fait venir un peu comme dans un musée ou comme dans un lieu d'événementiel ou un lieu d'expérience. Et mon président, Patrice, me dit souvent, Patrice Wagner, que il faut que maintenant, et je pense qu'il a raison, nos clients ne soient plus des spectateurs, mais deviennent des acteurs. Donc je pense qu'il va faire qu'on pourra perdurer. C'est que nos clients vont de plus en plus avoir envie de venir vivre des expériences dans des lieux comme les nôtres. Alors forcément lié au produit, forcément lié à ce qu'on est, à notre ADN, hein, on va pas avoir des cours de natation, mais je pense qu'ils vont être en tout cas beaucoup plus participatifs qu'ils sont aujourd'hui. Je pense qu'on va venir faire des choses dans nos lieux. Aujourd'hui, on vient voir des choses. Alors je sais pas quoi encore, hein, j'ai pas la recette, mais ça va être plus des lieux d'expérimentation, des lieux d'expérience, des lieux de test, des lieux de... Parce que ce monde virtuel ce monde virtuel fait un peu peur et du coup nous je pense qu'on peut rattraper par le tactile, par le faire, par le voir, par le toucher, par des choses, voilà, ça peut être de la matière, des cours, je sais pas exactement encore quoi, mais je pense que cet axe là va être magnifié et développé dans les années à venir.
Très bien. Tu te nourris de quoi, toi?
Ah, moi, je me nourris de beaucoup de mes pensées, beaucoup de pensées vagabondes en voiture ou en scooter, beaucoup de cinéma, beaucoup de peinture, beaucoup de danse, beaucoup de campagne, beaucoup de jardinage aussi. Je crois que j'ai besoin de faire le vide pour qu'après ce vide se remplisse différemment. Alors, je me nourris de choses des fois dont j'ai pas conscience aussi. Je sais pas exactement de quoi je me nourris. En tout cas, je vais pas me nourrir pour copier, pour trouver des idées.
Tu vas pas voir tes concurrents? Tu vas faire de temps en temps des petits tours?
Non. Oui.
Ouais.
Si, bien sûr, évidemment. parce que non, je vais pas trop voir la concurrence. Je pense que c'est pas là que l'inspiration vient. Au contraire, je préfère aller dans des choses qui sont très très loin de ce qu'on est. Comme Naoshima dont je parlais tout à l'heure, ou comme je ne sais pas quoi, mais non, c'est pas là où je peux aller voir par curiosité, mais c'est pas là où je vais m'inspirer en tout cas. Je m'inspire plus d'un spectacle de danse d'Akram Khan ou Expina Bosch que de voir les vitrines de Noël de la concurrence.
Ouais. Qu'est-ce que tu rêverais de faire? La collaboration rêvée, le truc fou absolu, ça serait quoi?
Au Bon Marché comme événement par exemple ou...
Ouais.
Alors, je sais pas, en tout cas je sais pas, il y a tellement de choses que je veux faire, je voudrais pas dire quelque chose plus que d'autres parce que j'ai plein de choses dans la tête, j'ai plein de choses dans les dossiers qui des fois n'aboutissent pas, qui sont compliquées. Stromae, je trouvais que c'était quelque chose qui me passionnait, le personnage me passionnait. Je trouvais rigolo que tout d'un coup, alors qu'on n'est pas du tout le lieu pour ça, on n'est pas un théâtre, on n'est pas le Zénith, mais que tout d'un coup, ce génie-là de la musique revienne chez nous et pas ailleurs, parce que tout le monde se demandait ce qu'il devenait, ça avait un peu quitté la mode, ça était malade, pas malade, et de faire revenir. Stromae chez nous, je trouvais ça assez cool de notre part et du coup il a aussi aimé l'idée, mais voilà, ça je suis assez fier de, voilà, sur un exemple passé. Sur les exemples futurs, j'ai plein tellement d'idées que je sais pas trop que dire pour pas porter malheur. Ouais.
Comment on mesure le succès ou le non-succès d'une opération?
Alors il y a un facteur qui est évident pour moi, c'est déjà l'interne.
Ouais.
C'est hallucinant parce que on a la chance d'avoir des équipes de vente, des équipes commerciales, des équipes fonctionnelles qui sont, comme je le disais tout à l'heure, comme on est tellement une petite famille, qui sont tellement proches de ce qu'on fait que tout de suite, tu sais le ton, tu sais si ça marche, ça marche pas, par des petits mots dans l'ascenseur et ça, tout de suite, tu le sais le lendemain, voilà. Et après, c'est impalpable parce que sur des expositions, alors forcément, sur des expositions artistiques par exemple, il n'y a pas de business derrière, on vend rien. Enfin si, on vend un tote bag, il y a un petit catalogue, mais on vend rien, il n'y a pas d'objectif de chiffre d'affaires derrière. Alors ouais, ça peut se faire dans les rayons voisinants, et encore, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû au temps? Il a fait froid, ils sont venus se protéger dans les grands magasins. Est-ce que, je sais pas, moi je me dirais que ce qui me donne plus de références pour savoir si une exposition a eu du succès ou pas, c'est les sorties presse.
D'accord.
C'est tout d'un coup quand le service presse à la fin m'apporte le dossier de presse et que je vois qu'il fait 10 cm ou 3 cm ou 15 cm, là je me dis waouh, on a parlé de nous.
Ouais. C'est bien.
Et c'est même pas une histoire si forcément c'est une histoire d'image, on est content qu'on parle de nous, mais c'est aussi une fierté de dire que ben on a proposé un sujet qui a plu.
Qui était pas à côté de
la
plaque,
qui était pas à côté de la plaque, on s'est pas planté parce que voilà, on y a cru et d'autres y ont cru aussi avec nous, et d'ailleurs le retour est là. Ça peut être une source de succès, la grosseur du dossier de presse, c'est la fin.
La relation que tu as avec, avec les équipes mode, les équipes food, avec l'épicerie de Paris, la grande épicerie de Paris, dans quelle mesure vous communiquez et dans quelle mesure toi tu as ton droit de vue, enfin ton est-ce alors, que t'as un pouvoir là-dessus ou pas du tout?
Moi j'interviens pas du tout sur les produits hein, ouais. Pour être moi je les produits alors je peux intervenir sur une thématique globale hein, qui va amener des produits, mais en aucun cas je me permettrais de choisir ou de me dire qu'il y a des gens qui sont dire que le produit ne correspond pas à la thématique et des gens qui travaillent sur ça et qui le font très très bien dans nos équipes, que ça soit pour le bon marché ou la grande épicerie. Après, moi, c'est à moi de, si la thématique vient, parce qu'on est plusieurs à donner aussi des thématiques, hein, on n'est pas, en tout cas, en ce qui concerne les produits, on fait pas tout seul au bon marché, hein, et puis on discute beaucoup. Après, moi, à moi de, et mes équipes de les mettre en scène, de magnifier les produits choisis et pour que la thématique soit encore plus forte et plus cohérente partout sur nos supports d'expression, que ça soit la publicité, les vitrines, le magasin. Mais en aucun cas, j'interviens sur le produit. Je suis pas un homme de produit, moi, je suis un homme d'image.
Ouais.
Même si c'est très, très lié et qu'on marche main dans la main.
Ouais.
Mais
t'as une affinité quand même à ce produit ou pas plus que ça?
Complètement, ouais. Complètement. Ouais. Bien sûr, sinon je serais pas là.
Ouais.
J'aime la mode, j'aime le design, j'aime forcément, bien sûr, j'aime la nourriture.
Bien sûr.
Mais c'est pas mon boulot et comme je respecte mes collègues, j'y vais pas et ils respectent aussi l'écriture qu'on met autour, donc ils viennent pas forcément. En plus, une fois que le storytelling est fait, la façon de le traduire, c'est un peu du vent. C'est compliqué hein, de dire que rouge est mieux que bleu. Pourquoi? C'est les mots que tu mets derrière qui font que. C'est l'argument que tu as derrière qui fait que ben, le fait de l'avoir fait comme ça, c'est beaucoup mieux que de l'avoir fait comme ça. Donc c'est quoi un subjectif? C'est pas toujours facile et c'est beaucoup, beaucoup de... Ouais, d'émotions personnelles que tu mets dans tes projets parce qu'il n'y a pas de raison que bleu soit mieux que rouge.
Qu'est-ce qui fait qu'une collaboration marche ou pas?
Le respect. Je pense que c'est le respect. Quand tu dis collaboration avec des invités, par exemple, je pense que c'est le respect et l'écoute. Je pense que quand on est agile face à notre invité, c'est-à-dire qu'on l'écoute, on essaie d'aller dans son sens, on essaie de comprendre ses envies pour les traduire, et que lui, à son tour, prend en compte aussi nos contraintes, parce qu'on en a quand même, hein, des contraintes, que ce soit budgétaire, de sécurité, on a plein de contraintes. On est un grand magasin, on reçoit du monde tous les jours, il faut qu'on soit très vigilant sur... cet aspect sécurité, et quand cette écoute est réciproque, ça marche en général. Parce que du coup, on peut baisser notre tabouret, soit lui, soit nous, soit elle, soit nous, en fonction des contraintes évoquées. On descend un peu d'un cran, on se dit ouais, ok, on va pas faire ça, on va plutôt faire ça, je comprends, et puis ça marche dans les deux sens, et là la collaboration est réussie. Quand les choses sont imposées, c'est plus compliqué.
Des deux côtés.
Ouais.
Qu'est-ce que tu ferais différemment dans toute ta carrière?
Carrière, ça fait vieux schnock. qu'est-ce que je ferais différemment?
Dans ta première partie de carrière.
C'est gentil, merci Adrien. Qu'est-ce que je ferais différemment? J'en sais rien, j'ai rien calculé, moi. Je suis là par hasard, je pensais jamais faire ça de ma vie, moi. Je vais faire du cheval, de la danse, être architecte en Bretagne.
Mais t'es content?
Ouais, je suis content. Je pense que j'aurais été content aussi dans une autre vie. Je sais pas.
T'attendais rien de particulier?
Non,
de la
pas
vie
du
de
tout.
Toute façon.
Non. J'étais un peu fataliste. J'ai suivi. Je crois pas en la chance, mais je crois au hasard. Je crois que j'ai eu de. Moi, ce qui me plaît le plus dans tout ce parcours effectué, c'est les rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer des gens fabuleux, que ça soit des collègues ou des invités ou des gens, des gens qui te font voir les choses de plus haut. C'est que des rencontres, et c'est ça qui est chouette dans ce métier-là, c'est construire avec des gens que tu connais pas, que tu apprends à découvrir, et travailler en équipe aussi. Moi, j'ai une équipe géniale, et sans eux, on ferait pas grand-chose. Ils sont investis, ils ont cet amour pour cette maison qui est étonnante. Bon marché, les gens restent, les gens aiment cette enseigne. C'est hallucinant, c'est rare.
Ben
le DRH
ouais,
me dit
ouais.
que c'est
exceptionnel. Ouais.
C'est exceptionnel. Le temps de durée des contrats chez nous, c'est, je sais pas, il y a un truc qui fait. Alors, est-ce que c'est lié au fait?
Ben,
en tout cas, dans mon domaine d'activité, moi, je pense que il y a pas de routine. Peut-être Noël. qui revient tous les ans, parce que Noël, on le gère aussi. Mais Noël peut être super excitant, ça dépend comment tu le prends et comment tu l'amènes et comment tu te le twistes.
Ouais.
Tu vois, c'est pas forcément comment tu te racontes, quelle histoire tu racontes Noël, ça peut être aussi super excitant. Tout comme un Iris Apfel ou un Loïc Prigent.
Ouais. Mais ça s'explique peut-être parce que t'es là aussi et que y a une certaine stabilité. En général, dans les studios, il y a beaucoup de turnover parce que les DA tournent aussi beaucoup.
Peut-être aussi, peut-être aussi, mais c'est pas que dans mon service.
D'accord.
C'est pas que dans mon appartement que cette stabilité est présente. Il y a aussi dans d'autres services, que ça soit tous les services que peut avoir un grand magasin. Les gens aiment ce magasin. Mais c'est peut-être ça qui fait qu'on est différent aussi, que même je vois au niveau des démonstrateurs. Les démonstrateurs, c'est les personnes qui sont sur le floor, mais qui appartiennent aux marques, qui sont payées par les marques, mais qui sont pas des gens bon marché. Ils sont contents de venir au bon marché dans leur marque plutôt qu'ailleurs. Il y a quelque chose, je sais pas. Est-ce que c'est l'esprit Boussicot qui rentre, ou Madame Boussicot qui remplit le bon marché de son sein maternel et qui fait rester là, je sais pas.
Qu'est-ce que tu dirais à Frédéric si tu avais l'opportunité de le voir là maintenant, quand il est arrivé à Paris il y a 23 ans, même un peu plus, 25 ans en arrière, tu lui dirais quoi?
Je lui dirais doute pas autant.
Ok.
Mais je l'ai jamais rencontré, donc je peux dire que le Frédéric, il doute toujours autant.
Mais est-ce que ça fait pas partie du
personnage, bien sûr.
Ouais, du personnage et puis de la raison de ton succès aussi.
Succès, c'est un bien grand mot. Moi, je suis pour rien. Ouais. J'ai simplement répondu à des demandes et j'ai pas de succès. C'est le bon marché qui est un succès, je pense. Enfin, depuis dès sa fondation, d'ailleurs, en 1852, c'est le premier grand magasin du monde. Tout a été Moi, je suis qu'un petit élément qui est arrivé à un moment, qui va repartir à un moment et qui a participé à ça, mais avec passion. Je pense qu'il y a eu de la passion derrière. C'est pas un métier, quoi. C'est une passion presque.
Ouais.
Pas un métier, ouais. Voilà. C'est peut-être ça la différence. C'est que. Alors après, c'est trop aussi, la vie privée à côté, c'est compliqué, mais peut-être ça, c'est pas un métier, c'est une passion. Sinon, ça marche pas, je pense.
Et il n'y a pas cette envie aussi, c'est l'éternel. Questionnement, je pense, chez les DA de travailler pour une marque et de travailler pour soi, de créer son propre univers à soi. Comment tu le vis, ça? Est-ce qu'un jour, tu auras envie de créer ton truc à toi? Alors, j'imagine que ce sera par la peinture.
Tout à fait, ce que j'ai à répondre, c'est c'est, je le ferai pas, je vais pas rentrer et ouvrir une agence d'événementiel ou d'architecture ou de conseil en décoration, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'ailleurs. Mais ça sera plutôt par un mode d'expression qui est loin de ce que je fais aujourd'hui, mais qui sera aussi mon univers à moi et qui sera ma marque, même si ça se traduit par de la peinture ou de la sculpture ou du macramé, je sais pas ce que je ferai, mais dans ma maison en Bretagne, au bord de l'eau, là, l'hiver. Mais je pense que ça sera par ça, ou de l'écriture, ou je sais pas, mais de toute façon, moi, je pense qu'on a besoin de créer. En tout cas, moi, j'ai pas forcément créé par les mains d'un point de vue physique et de faire des choses, mais de créer par la pensée. Après, ça se traduit comment? Je sais pas. Est-ce que ça se traduit par un bouquin? Ça se traduit par des lignes sur un cahier? Est-ce que ça se traduit par des coups de pinceau sur des coups de hache sur du bois? Je sais pas. Mais, y a pas, en tout cas, la matière n'est pas encore là, mais la pensée est créative et la pensée, il faut qu'elle se pose quelque part, je pense. Sinon, après, on approche de la folie. Donc, moi, je pense que la peinture pourrait être, un nouveau mode d'expression qui pourrait, qui pourrait arriver.
Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune homme ou une jeune femme qui souhaiterait avoir le même parcours que toi? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire?
Doute, gros doute encore. Je dirais juste d'être soi-même et d'être passionné et de pas savoir où elle veut aller. Y aller dans le projet, déjà par le mode projet, par le mode boulot. Les gens qui ont peut-être trop d'envie de carrière ou des gens qui tout d'un coup calculent trop, moi je les ai jamais vus aller très loin. Je pense que la passion est plus forte qu'un plan de carrière ou de dire moi jamais j'aurais pensé être directeur artistique du bon marché, mais jamais quoi. Franchement, il n'y a pas de. C'est pas de la chance parce qu'on n'est pas là. Non, c'est pas de la chance, mais c'est peut-être des hasards, de rencontres, de gens, de gens qui t'es là au bon moment, mais tu sais pas pourquoi. Paf, on a besoin de quelqu'un comme toi, mais t'es là. Mais t'as rien fait pour. Mmh. C'est,
mais tu te dis quelqu'un d'ambitieux, toi, ou pas?
Non. Non, je dirais pas ça. Non, ouais. Non. Quelqu'un de passionné, de naïf et quelqu'un qui a envie. Mmh. Pas ambitieux, mais quelqu'un a envie de faire des choses.
Ouais.
Mais pas ambitieux.
Trop bien. Très bien. Et ben on va finir sur ces mots-là. Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. En général, moi, je finis toujours mon interview en posant la question « Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?»
Ah. Alors, qui je souhaiterais entendre dans ce podcast ? Bah tiens, Séverine Merle.
Ah ouais.
De qui j'ai beaucoup parlé et qui a un parcours, moi, qui m'étonne et qui est quelqu'un de vrai, qui est quelqu'un de... Voilà, Séverine Merle, je...
Ah, ça serait génial.
Ça serait une belle interview. Donc, Séverine Merle, jolie présidente de Céline. Et peut-être quelqu'un du monde artistique, je demanderais bien à Sophie Kahl, son regard sur la mode. Parce que je trouve qu'elle a un regard espiègle, elle a quelque chose de décalé qui pourrait être super intéressant à découvrir.
Trop bien. Bah écoute, si tu peux mettre en relation avec ces deux personnes-là, ça serait extraordinaire. Merci infiniment pour le temps que tu nous as consacré, pour ta générosité et pour tout ça. Donc, good luck pour la suite, pour la deuxième partie de ta carrière. Et je te dis à très bientôt.
Merci Adrien.
Salut.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre-dans-la-mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.